Jeunesse de la bourgeoisie. Au Moyen-Âge, dans chaque ville, force était aux citadins de s'unir contre la noblesse campagnarde pour défendre leur existence. L'extension du commerce, l'établissement des communications, amenèrent chaque ville à lier connaissance avec d'autres villes qui avaient fait triompher les mêmes intérêts dans la lutte contre le même adversaire. Peu à peu, les nombreuses bourgeoisies locales donnèrent enfin naissance à la classe des bourgeois. Par réaction contre les conditions existantes et par le mode de travail qu'elles nécessitaient, les conditions de vie des citadins pris en particulier devinrent en même temps des conditions communes à tous et indépendantes de chacun en particulier. Les bourgeois avaient créé ces conditions dans la mesure où ils s'étaient libérés des liens féodaux et ils avaient été créés par elles dans la mesure où ils étaient contraints de s'opposer à la féodalité qu'ils trouvaient devant eux. Une fois établie la liaison entre les différentes villes, ces conditions communes se constituèrent en conditions de classe. Les mêmes conditions, la même opposition, les mêmes intérêts devaient aussi dans l'ensemble susciter partout les mêmes mœurs. La bourgeoisie elle-même se constitue en même temps que ses propres conditions, petit à petit. Puis se scindent, selon la division du travail, en différentes fractions, et absorbent finalement toutes les anciennes classes possédantes. Dans la mesure où toute propriété existante est transformée en capital industriel ou en capital commercial. Tandis qu'elle suscite une nouvelle classe, le prolétariat, majorité de l'ancienne classe non possédante et partie de l'ancienne classe possédante. Note de bas de page. La bourgeoisie absorbe, en premier lieu, les branches de travail relevant directement de l'État, et ensuite, tous les ordres plus ou moins idéologiques. Fin de la note de bas de page. Les individus isolés ne constituent une classe qu'autant qu'ils ont à mener une lutte commune contre une autre classe. Au demeurant, eux-mêmes s'affrontent hostilement dans la concurrence. De l'autre côté, la classe se rend à son tour indépendante des individus, de sorte que ceux-ci trouvent leurs conditions d'existence déjà préétablies, se voient imposer par la classe leur place dans la vie, et partant leur évolution personnelle. Les individus sont subordonnés à la classe. C'est le même phénomène que l'assujettissement des individus isolés à la division du travail, et il ne peut être supprimé que par l'abolition de la propriété privée et du travail lui-même. La manière dont cet assujettissement des individus à leur classe se change en assujettissement à toutes sortes d'idées, etc., nous l'avons déjà indiqué à plusieurs reprises. Quand on considère sur le mode philosophique cette évolution des individus dans les conditions d'existence communes des ordres et des classes se succédant historiquement, et dans les idées générales qui leur sont donc imposées, on peut certes s'imaginer facilement que ce qui a évolué dans ces individus, c'est le genre ou l'homme avec un grand H, ou que ce sont eux qui ont constitué l'homme. Imagination qui vaut à l'histoire quelques rudes soufflées. On peut alors concevoir ces différents ordres et classes comme des spécifications de l'expression générale, des variantes du genre, des phases de l'évolution de l'homme avec un grand H. Note de bas de page. L'idée, fréquente chez Saint Max, que c'est grâce à l'État que chaque individu est ce qu'il est, ressemble au fond à cette autre idée, selon laquelle le bourgeois n'est qu'un exemplaire du genre bourgeois. Proposition qui présuppose que la classe des bourgeois a déjà existé avant les individus qui la constituent. Préexistence de la classe chez les philosophes. Fin de la note de bas de page. Cet assujettissement des individus à des classes déterminées ne pourra être aboli avant que se soit formée une classe qui n'a plus d'intérêt particulier de classe à faire prévaloir contre la classe dominante.